France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Pour présenter en 2004 son dictionnaire amoureux de Venise, Philippe Soler s'écrit « Je suis arrivé là très jeune, j'ai passé chaque année, printemps et automne, beaucoup de temps à marcher, naviguer, regarder, respirer, dormir et m'émerveiller. Venise, voilà son secret, est un amplificateur. Si vous êtes heureux, vous le serez 10 fois plus, malheureux, 100 fois davantage. Tout dépend de votre disposition intérieure et de votre rapport à l'amour. L'amour, oui, est dans tous les sens. Anges et libertinage, architecture, peinture, musique, roman, poésie, mais aussi air, pierre, eau, étoile. Nature et culture, enfin à égalité. Venise n'est pas un musée, mais une création constante. Si vous échappez aux clichés, au tourisme, au bavardage, si vous avez réussi à être vraiment clandestin ici, alors vous savez ce que le mot « paradis » veut dire. En 1988, Philippe Solers était l'invité d'Olivier Germain-Thomas pour un numéro spécial Venise d'Agora.
Agora spéciale, Venise. Philippe Solers, vous aimez les expériences, je crois ?
Oui.
Nous en pratiquons une en direct ?
Bien sûr, tout de suite.
Vous fermez les yeux ?
Oui.
Oui, Venise arrive,
oui.
Tombe sur vous.
Oui.
Quel lieu, quelle image ?
Oh, écoutez, ça, la première image qui me revient, c'est la première fois que j'ai vu Venise. Je crois que c'était en 63, j'arrive là par le train, pour la première fois, avec une amie. C'est bien entendu moi qui porte les valises, 2 assez lourdes valises, et je me retrouve avec elle, place Saint-Marc, pour la première fois. Et je me rappelle très exactement ceci, c'est que j'ai laissé tomber les valises. Elles ont fait beaucoup de bruit sur le pavement, devant le choc que j'ai reçu en voyant cette place-là. C'était pas particulièrement illuminé, il se passait rien de spécial, il y avait presque personne, ça devait être vers octobre ou novembre. Et puis alors là, j'ai décidé que c'était maintenant ma ville, c'est là où je reviendrai, oui.
Il n'y avait pas eu auparavant d'entrée littéraire à travers, j'avais lu
Marcel Proust, La recherche du temps perdu, je savais que dans La recherche du temps perdu, le lieu évoqué paradisiaque, constant, était Venise, que le narrateur n'arrêtait pas de dire que finalement il allait rompre avec Albertine pour partir à Venise, etc. Les passages les plus enchantés de Proust, là où il voit comme l'équivalent du temps retrouvé, c'est bien ça, c'est bien le baptistère de Saint-Marc. Mais bon, j'avais lu ça, mais ça restait abstrait. Le choc nocturne en arrivant n'avait absolument rien à voir avec ce que j'avais pu en lire ici ou là.
Et là, votre esprit de contradiction vis-à-vis par rapport aux valeurs établies n'a pas joué.
Non.
Parce que vraiment tomber amoureux de Venise quand on est un jeune homme et qu'on voyage avec 2 valises et une jeune femme, je veux dire, c'est pas tout à fait du Philippe Solers.
Oui, pourtant c'est ça qui s'est passé.
Et pourtant c'est ça, oui.
Oui.
Ça
peut
que Philippe Solers, c'est autre chose.
J'ai su que ça serait le pôle magnétique de mon existence et après ça j'ai beaucoup voyagé. Je suis allé dans différents pays, sous différents climats, aux États-Unis, en Chine, ailleurs. Et je n'ai jamais trouvé rien de mieux à faire que de revenir à Venise.
À Venise que vous portez à l'intérieur de vous, on voit d'ailleurs dans Le cœur absolu. À un moment donné, le narrateur qui ressemble à peu près à Philippe Solers, il me semble.
Tout à fait.
Le narrateur est à Paris et il descend. Il est étonné, effectivement, de voir des voitures, d'entendre du brouhaha, parce qu'à l'intérieur, il était à Venise.
Voilà,
donc il y a aussi votre Venise intérieure que vous portez quand vous êtes ailleurs.
Oui. Et d'ailleurs, mon quartier, maintenant, il y a 2 Venises. Il y a celui que je viens d'évoquer avec Saint-Marc et tout ça. Et puis, il y a l'autre qui est au-delà du pont de l'Académie et qui débouche sur la Giudecca et sur les Zattere, n'est-ce pas? Et c'est ça, maintenant, c'est celui-là où je vais, et je ne traverse presque plus jamais le pont de l'Académie. Je ne vais plus du tout de l'autre côté. Il y a deux Venise très, 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 très séparées.
Oui, c'est une
zone magnétique.
Oui. Alors, qui est très lumineux.
Les Zattere, et vous connaissez ça. On passe par la douane, on arrive sur la Salute, et enfin, on est en la Salute. Quelle merveille. Tiens, voilà Proust. Proust ne voyait pas la salute. Il ne lui trouvait rien de remarquable. Il faut voir toute la théorie esthétique qui se dégage de la recherche du temps perdu, l'influence de Ruskin et tout ça, et comment il ne voit pas le grand Venise de la contre-réforme, l'admirable construction, exaltation de la victoire sur la peste. C'est la salute, c'est ça. C'est la peste.
Mais ça, vous avez raison, c'est parce que Proust est en fin de compte entièrement pris par la vision de Ruskin, et Ruskin voyait Venise uniquement gothique, en quelque sorte.
J'ai remarqué ça chez Morand aussi, qui a écrit ce merveilleux livre qui s'appelle Venise au pluriel, qui donc raconte qu'au fond, il revient par sa femme à la religion orthodoxe, en étant insensible, parce qu'il croit que c'est l'essence même du christianisme, en restant totalement insensible à la splendeur contre-réformiste, contre-réformatrice de Venise. Et je crois qu'il y a finalement, c'est encore une bataille à mener que de faire voir ce que c'est quand même que les tiepolos dans les plafonds.
Oui. Votre Venise, c'est celle-là. C'est plutôt donc à partir du 17e.
C'est ça, 18e, c'est pas la Dose San Giorgio, c'est ça, c'est tout. Les Zatere et mon église, si vous voulez, il y a San Sebastiano, il y a la gare maritime là, qui est au bout, avec les merveilles, l'église à Véronèse, là où Véronèse est enterrée. Oui. Avec cette sacristie très étrange, où il y a un petit serpent dans un arbre là, qui vous attend tout à fait contre un carreau où personne ne va jamais. Et il y a la tombe de Véronèse. Et puis, il y a mon église à moi, c'est les Jésuites.
Oui, qui se trouve justement sur les
Alpes. Les Jésuites, pas les Jésuites.
Et les Jésuites. Voilà. Où vous avez donc de Tiepolo.
Le plafond, c'est la gloire de Saint-Dominique. C'est une église parfaitement chérubinique. D'ailleurs, Venise est une ville chérubinique, c'est-à-dire une ville de la contemplation apollinienne, si vous voulez. Voilà, les dominicains sont dans cet axe-là. De l'autre côté, tout à fait en face, vous avez les séraphiques, c'est-à-dire les franciscains. Alors, entre les séraphins et les chérubins, qui sont les deux classes d'anges les plus élevées, comme nous savons bien. Mais enfin, les uns brûlent et les autres contemplent. Mmh. Alors, selon que vous êtes à l'ombre au soleil, vous avez la contemplation, à l'ombre, probablement, une flamme noire qui est de l'autre côté.
Mais dans la contemplation, dans votre église, vous avez des anges qui tiennent des candélabres, qui entourent l'autel, qui sont de choses extraordinaires, et d'un érotisme.
Taisez-vous,
avec des épaules, des bras, des genoux.
Oui. Ce sont deux merveilleux portes lampadaires. Oui, c'est ça, anges en bois doré. Une merveille, ouais. Absolument. Et puis, il y a encore ce tiepolo à droite en entrant, n'est-ce pas, avec ces trois personnages en pleine conversation mystique. C'est à Venise où j'ai compris enfin ce que c'était qu'une sacrée conversation. Vous voyez, c'est-à-dire que nous avons en ce moment une conversation, elle est aussi profane que possible. Nous allons peut-être y faire sentir de temps en temps quelques indices de sacré. Mais quand vous avez ces personnages qui sont censés être ensemble, les Bellini de Santa Maria dei Frari, l'Assomption du Titien, qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire? De quoi parlent-ils? Des choses dernières, des choses les plus profondes de la théologie? Alors là, vraiment, Venise tout entière est une conversation sacrée.
Venise comme source d'inspiration littéraire, donc avec évidemment tous les dangers qu'il y a d'avoir les prédécesseurs que vous avez. Vous avez
mais finalement,
joué.
Non, je crois qu'on est très à l'aise.
Ça ne vous a pas gêné.
Mais ils n'ont pas vu tellement de choses.
Vous avez joué,
il y a tellement de choses à voir.
Vous avez joué sur le jeu, bien sûr, notamment dans Le Cœur Absolu, le fait de congrégation secrète. Effectivement, ça va bien dans l'esprit de Venise.
Ça, c'est Casanova,
Oui, Casanova. Vous avez joué sur l'amour et l'érotisme, mais vous avez joué aussi sur la solitude. Car le narrateur, dans Portrait du joueur, aime se retrouver justement seul à Venise. Et à la limite, sa grande journée vénitienne serait peut-être ouvrir ses fenêtres pour savoir qu'on est à Venise et presque les refermer sur la feuille.
Et dormir à Venise. Dormir à Venise. Tiens, je vous propose ça comme clip. On dort. Bon, en tout cas, moi, je dors à Venise d'une façon tout à fait particulière. Je ne sais pas si c'est parce que il y a un alliage subtil entre l'air et l'eau et qui fait que le corps s'allège en devenant à la fois quelque chose d'intermédiaire entre l'air et l'eau. En tout cas, moi, j'ai des sommeils absolument merveilleux à Venise, qui ne sont pas forcément longs, d'ailleurs, mais d'une plénitude aérée, tout à fait. J'aime beaucoup dormir, vous savez. Je dors plus ou moins bien selon les paysages et selon les lieux. Je dors très bien dans mon île de Ré, et je dors très très bien à Venise. J'ai besoin d'être dans le silence et la légèreté de l'eau, avec l'air qui rentre dans l'eau, l'eau qui sort de l'air, qui rentre dans l'eau, etc., etc. Toutes ces métamorphoses subtiles qui font que là, j'ai une sorte de béatitude immédiate.
Oui, sommeil et contemplation, mais vous jouez aussi sur le grand spectacle, parce que la visite du pape à Venise, avec la soirée chez la comtesse, en français, oui. Et puis le pape qui écoute la musique, et le narrateur qui va draguer une flûtiste, on va, je veux dire, là...
Je prie les historiens de l'avenir, s'il y en a encore, de vérifier que le concert que je décris à la Fenice, en l'honneur de Jean-Paul II, a bel et bien eu lieu, exactement dans la façon dont je le raconte, et je n'aurais jamais dû pénétrer dans cette salle de concert. J'ai transformé un peu dans le roman, je n'avais aucun laissé-passer, aucune invitation, j'étais mal habillé, j'avais ma vieille veste chinoise, comme je le raconte, et il s'est passé là, je me suis senti, croyez-moi si vous voulez, mu par je ne sais quelle décision spirituelle, et je me suis dit, tiens, je vais passer. Alors il y avait un premier contrôle de police, un deuxième contrôle de police, un troisième contrôle de police. Croyez-moi si vous voulez, je n'ai été ni arrêté, ni fouillé, ni interpellé. J'aurais pu transporter un P-38 dans ma poche et abattre sa sainteté. Ça aurait été un beau scoop, non ? On m'a laissé mystérieusement passer comme si j'avais été invisible. C'est drôle. En arrivant à l'entrée, j'ai dit, il faut absolument que je voie ce concert. Pourquoi ? Me dit quelqu'un, vous avez votre invitation ? Je dis, non, mais il faut absolument que je le voie, c'est très important.
Je suis presque déçu, Philippe Soler. Ouais. Parce que j'aimais l'imagination de ce concert. Maintenant que je sens qu'il a été réel, enfin...
Il a été réel.
Oui, il a été réel.
Non, ce qui est drôle, non, je l'ai pris comme tel, parce que ce qui était extraordinaire, c'est qu'on jouait au pape Gustav Mahler, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je crois que c'était la quatrième symphonie.
Oui, c'est-à-dire
le contraire même de ce qui pouvait, à mon avis, être décent de jouer pour un pape. Après tout, il y a plein d'orateurs, il y a plein de Monteverdi jouables qui consonneraient mieux avec. Donc il y avait un tel décalage, une telle agressivité. Une telle agressivité, si vous voulez, municipale ou gouvernementale dans ce concert, que la situation m'a paru tout de suite des plus impressionnantes. Les cardinaux étaient figés dans une attitude comme s'ils recevaient une mitraille, des boulets de canon. Et le pape s'ennuyait visiblement, mais tapotait légèrement sur son genou droit. Je l'observais, j'étais au premier étage. Voilà, c'était une jolie séance.
Oui. Peu de Vénitiens dans votre Venise ?
Quelques-uns, si, toujours. C'est les deux musiciens sont vénitiens. Marco Cecilia, je crois que le violoniste est là. Et le clarinettiste est là. Et la violoniste.
Enfin, le peuple de Venise en tant que tel, avec ses habitudes.
Mais vous savez, il n'y a pas de peuple.
Les femmes des Ave Maria, ça oui, ça on les trouve justement dans votre église.
Oui, mais vous savez, c'est que les gens sont vaporisés à Venise, et c'est déjà une observation que à peu près tous les historiens font. C'est-à-dire que Venise a pu représenter un comble de liberté, citadine, parce que les gens avaient l'air de même pas se connaître. Hein. Il y a des témoignages tout à fait précis, tous extrêmement précis, sur le fait que vraiment il y avait vraiment, c'est comme s'il n'y avait pas de cohérence de la population. Hein. Qu'est-ce qui est gênant dans une ville, c'est que vous sentez une population cohérente, qui prend des autobus en même temps, qui est pressée en même temps dans le métro, qui appartient au même malheur d'exister. Il se trouve qu'à Venise, on a l'impression que les gens peut-être s'ignorent d'une maison à l'autre. Et le sentiment très fort que j'ai, hein, Dieu sait que j'y passe du temps, que vraiment vous ne connaissez pas votre vis-à-vis, que vous le connaissez, vous n'avez, c'est pas par agressivité, c'est simplement qu'il vous laisse là à votre espace et à votre temps.
Mais il était nécessaire quand même qu'il y ait des Vénitiens dans l'association Le Cœur Absolu.
Il y a deux Vénitiens.
Oui.
Oui. Et les deux musiciens Vénitiens.
Et les Vénitiennes ?
Il y a un musicien et une musicienne.
Et les Vénitiennes en dehors des membres de l'association.
Et les Vénitiennes, je peux vous en trouver là une merveilleuse.
Non, il y en a, mais
sur la fin.
Comment sont-elles? Comment viennent-elles?
Elles sont.
Il y a une spécificité de la Vénitienne.
Non, il y a une spécificité nulle part. Il y en a beaucoup, beaucoup de laides, beaucoup d'âgés, beaucoup de. Mais il se trouve qu'elles sont peut-être faites, lorsqu'elles sont vraiment bien, elles sont aptes à être peintes sur le champ, sur le vif. Le dialogue entre le peintre et son modèle peut être, comme le prouve toute la peinture, qui finalement est quand même plutôt vénitienne que romaine. La peinture et la musique, c'est Venise. Et puis le monde entier s'aligne, essaye de faire même Jean-Sébastien Bach vient de Venise, au fond, quand on suit bien les traces.
Vos peintres de Venise, Tiepolo, qui est utilisé dans Le Cœur Absolu.
Tintoretto. Tintoret, bien sûr. Oui, quelle merveille.
Oui, enfin, vous lui trouvez parfois un peu une absence de subtilité, quand même.
Écoutez, tout est dans l'époque, mais je ferais bien, volontiers, une étude sur les anges du Tintoret, la façon dont il les envoie à la renverse, dont ils fondent comme des mouettes, comme ça, sur les situations. Ce qui est étonnant, vous comprenez, là-bas, c'est que si vous avez bien la peinture et la musique dans le sang, vous sentez que c'est automatiquement la même chose que ce qui est en train de se passer au dehors, il m'arrive, c'est-à-dire entre le ciel et l'eau, et le vent, et le souffle. Il m'est arrivé souvent à Venise de passer vraiment tout de suite d'un plafond extatique de Tiepolo à un coucher de soleil, ou au contraire un orage, et de me dire, mais voyons, ces gens n'avaient qu'à se retourner légèrement à l'intérieur pour être exactement en corrélation avec ce qu'il y a de splendide à l'extérieur et réciproquement, n'est-ce pas ? Ce qui est dedans est dehors, ce qui est dehors est dedans.
Oui. Enfin, le drame de Venise, c'est que la créativité s'est arrêtée.
On
voyage dans un souvenir, et effectivement, votre idée est assez belle, dans un souvenir qui se reflète effectivement dans le ciel, dans la solitude, dans les nuits, parce que les nuits de Venise sont magnifiques, avec les chats, avec la présence très forte des étoiles, mais il n'y a plus de créativité, d'où cette idée, effectivement, de toute la fin du 19e siècle, d'associer Venise à la mort, qu'on ne trouve pas chez vous.
Et non, vous savez, vous dites toute la fin du 19e siècle, et votre réflexion prouve bien à quel point c'est difficile de ramer contre l'influence allemande. This is Deutsch, ça. Hein? C'est Thomas Mann, c'est Gustav Mahler, c'est Wagner.
Barrès aussi. Venise est assez morte aussi.
Oui, mais Barrès était déjà c'est une sorte de Lorrain. Il est presque allemand, au fond. Attendez. Qui sait et qui a entre les mains les fabuleux tableaux que Monet a peint à Venise? Il faut voir, il y a un livre superbe qui s'appelle Monet à Venise, Monet Claude. Il y a un tableau de Manet qui se passe sur le Grand Canal, où vous voyez une gondole absolument éblouissante. C'est un des plus beaux tableaux de Manet. Les peintres français, et Proust. Hein, Proust, c'est pas du tout que c'est triste Venise, autant des amours mortes et mourir à Venise, c'est le contraire.
Proust, c'est-à-dire que c'est aussi un voyage à l'intérieur de ses propres arcanes, de son inconscient.
Tout à fait, mais les Français, mon cher ami, ont compris peut-être beaucoup mieux que les Allemands, qui y voyaient là comme quelque chose d'opaque et de répulsif. Vous comprenez, voilà, Venise meurt parce que c'est Napoléon qui en décrète, n'est-ce pas ? Quand on pense que ce Corse... qui haïssait Venise, à peu près comme Hitler haïssait Vienne.
Peut-être à cause de gêne.
Oui.
Il faudra voir pourquoi.
Qui haïssait Venise, non seulement, n'avait qu'une seule volonté, c'était d'en finir avec cette république. Le futur empereur, là. Et qu'il l'a revendu pour une bouchée de pain aux Autrichiens.
Enfin, pour Forio.
Ah, c'est extraordinaire.
Il n'y a pas mis les pieds en plus. Il était fasciné, il a voulu la faire plier. Il l'a fait plier. Car les Vénitiens ont été très larges à ce moment-là.
Ils ont offert beaucoup d'argent, mais ils ne voulaient pas l'argent. Ils voulaient la victoire. Ils voulaient humilier.
Mais il n'y a pas eu un coup de feu, pratiquement. Le doge a retiré sa...
Alors, c'est une grande histoire. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est maintenant les réactions. Premièrement, les réactions individuelles en arrivant à Venise. C'est-à-dire, il y a des gens pour qui c'est l'angoisse. C'est la perte d'identité. C'est quelque chose qui déclenche la mélancolie. Il y en a beaucoup. J'en connais beaucoup qui viennent à Venise. Vraiment, je sens quelque chose, en effet, comme la mort. Je me sens étreint par une...
À cause de l'archétype ou parce qu'il y a quand même quelque chose dans la réalité qui...
Ça révèle les caractères. Ouais. Amener quelqu'un, si vous voulez.
C'est pour ça qu'on y est très amoureux dans vos livres.
si vous voulez faire un test avec quelqu'un, amenez-le à Venise. C'est comme le tournesol. Il vire bleu, il vire rouge. Voilà. Il y en a que ça déprime et d'autres que ça excite.
Il vire au Thomas Mann, il vire au solaire, si on s'aperçoit.
Voilà. Ça révèle les caractères. Deuxièmement, ça pose une question historique énorme. Et je crois que Venise est le centre d'une question magnétique de l'histoire. C'est-à-dire, voilà une ville, en effet, qui pouvait passer pour complètement archaïque et s'enfonçant dans les eaux. C'est le thème constant. Venise va disparaître sous les eaux. C'est la cathédrale engloutie, patati patata. Pas du tout. Venise se porte très bien, quoi qu'on en dise. Mais très très bien. Mais encore mieux qu'on croit. Et alors, il y a eu, au fond, une ville qui a attendu la fin du XXe siècle, je crois, c'est-à-dire un siècle et demi, pour se révéler comme la ville du XXIe siècle. Et pendant l'époque des chemins de fer, pendant l'époque prussienne, pendant l'époque de la psychologie romantique, pendant l'époque du refoulement sexuel généralisé, pendant tout ce temps, ce long temps de guerre, de charniers continentaux, Venise, au fond, avait l'air complète d'avoir fait le mauvais pari. Et puis maintenant, on se rend compte qu'au fond, il faudrait faire une capitale planétaire de tout ce qu'il y a de plus, enfin de plus essentiel au monde. Ça serait Venise. Et vous savez, le sommet qui a eu lieu là, j'étais là pendant que il y avait tous ces braves gens, la Reagan, Thatcher, Mitterrand, etc.
Tout ça dans un cloître en plus.
C'est ça. Alors on fait ça, et j'étais dans le quartier. Ça n'arrêtait pas de ronfler. Il y avait les hélicoptères qui faisaient tomber d'ailleurs, qui saccageaient la ville. Ouais. Enfin, bon. Et on sentait à quel point cet appareil lourd était lui-même une image déboussolée du lourd 19e siècle, alors que Venise surnage et vole dans l'espace, je crois futur.
C'est enfin, ça. Il est bien difficile pour un lieu d'être cette sorte de réserve de l'imaginaire du monde à venir, ce que vous semblez dire avec votre vocabulaire que je transcris dans le mien.
Oui, je vous en prie.
Et en même temps d'être complètement saccagé, envahi par le tourisme, la vulgarité, les gondoles, les cars organisés, les touristes en short, le hot dog, les pizzas.
Oui, mais on les concentre
dans
le
fast food maintenant dans une des principales rues qui mène vers le Rialto.
Oui. Bon, enfin, vous savez, il y a tellement d'endroits où on peut être très tranquille que c'est pas très, très, très gênant. Moi, je suis jamais emmerdé à Venise parce que
vous connaissez votre saison ou vos quartiers ou...
Ça, oui, c'est le quartier, je crois, oui. Je ne le répète pas.
On ne dit pas où il est, mais enfin, le dimanche, c'est quand même très envahi. Le samedi et le dimanche, l'avenue que vous aimez, vous prenez votre soleil, donc on va plus dire le nom.
C'est les gens.
C'est plutôt des Italiens. C'est plutôt les promenades familiales.
À ce moment-là, vous savez ce qu'on fait, on va se coucher, on ferme les volets, on dort très bien. Et puis on peut rester la nuit. Il y a des nuits à Venise merveilleuses. Vous pouvez marcher toute la nuit. Il n'y a personne.
Comme réserve littéraire pour vous, très présente dans Le cœur absolu, dans le livre précédent, Portrait du joueur, présente à la fin, comme une sorte d'annonce de ce qui va venir.
Dans Femme aussi, Venise.
Dans Femme aussi. Dans d'autres livres.
Paradis aussi, tout le temps. Venise est partout. Oui.
Et dans les livres à venir aussi, avec capacité de renouvellement.
Pas forcément. Dans celui que je vais publier bientôt, il n'y a pas du tout Venise. Non. Mais je pense que ça va revenir un jour ou l'autre. Je me repose un peu de Venise dans mes livres.
Il y a une sorte de certitude, en fin de compte, que c'est la ville que vous avez élue, qu'elle vous a élue, et que c'est à la vie, à la mort.
Si je pouvais être enterré là, dans un coin d'église, je serais ravi.
Polygame, polythéiste, mais en ce qui concerne la ville, une seule. C'est trouvé. Vous y allez souvent ?
Oui, au moins deux fois par an. Oui. Au moins, sinon plus.
Et une journée de solaire, ça, Venise ?
Bah, écoutez, j'écris là-bas, c'est ça. Je dors bien, j'écris. Je connais à peu près tous les... Je ne vais pas revenir dans les musées ou les églises. J'ai deux ou trois églises où j'aime aller méditer. J'écris bien.
Donc vous n'avez plus le plaisir de la découverte. Non, c'est fini.
Plus aucun.
Non, et malgré cette absence de plaisir, le désir fonctionne.
Oui.
Donc là, on assiste à un désir sans découverte.
Un désir sans fin, parce que c'est la main qui court enfin libre sur le papier. Et je vois ma petite écriture. Je regarde simplement ma graphie, vous savez. Quand je suis à Paris...
Vous pourriez faire ça à Vesoul, je veux dire.
Je pense pas. Parce que j'ai fait du Vesoul, j'ai fait même l'île de Ré, je suis très très protégé. Je regarde simplement le résultat comme un sismographe hein, ou un cardiogramme. Je regarde mon écriture et je vois si elle est plus ou moins détendue, plus ou moins lâchée. Hein, si je me permets de lâcher un peu le poignet. Eh bien, c'est à Venise, je vous assure que j'ai des pages d'une graphie alors impeccable.
Donc ça prouve que les anges sont vraiment vivants.
On peut le dire comme ça.
Que leur puissance
a bien dormi et plane bien.
Venise souterraine, Venise secrète, Venise ésotérique, société secrète dans Venise, c'est un thème constant.
Oui.
Que vous utilisez un petit peu, pas trop, vous l'abordez légèrement.
Oui, je crois qu'il ne faut pas trop insister, parce qu'à ce moment-là, ça deviendrait pesant, et rien n'est pesant à Venise. Je pense que c'est la ville qui se prête, je crois. Oui, c'est la ville des masques, c'est la ville du carnaval, c'est la ville des dissimulations, c'est la ville des travestissements. Là, écoutez, il faut quand même renvoyer l'auditeur à la lecture intensive des mémoires de Casanova, tout simplement. Quelle aventure entre Casanova et Venise, hein, quand on pense à ce qui lui est arrivé avec cette ville dont il était issu. Mais la ville se prête au choix, à l'élection. Hein. Encore une fois, on est moins surveillé qu'ailleurs. Ça, tous les voyageurs ont été d'accord pour constater ce fait. Sans doute, disent-ils, pour la plupart, la police est si bien faite qu'on ne la voit même pas.
Oui, lorsque Venise existait comme puissance politique. Aujourd'hui, c'est une cité italienne comme les autres sur ce point-là, sur le plan de la
police.
Est-ce
que vous croyez qu'une tradition comme celle-là ne laisse pas des traces partout? La République de Venise, qui est une chose tellement extraordinaire, probablement la plus grande réalisation politique de tous les temps.
Et fascination de votre part pour cette histoire.
Quand on parle de des inquisiteurs et tout ça, Venise, mais enfin, il y a eu quelques petites choses. Mais quand on pense aux énormités qui se sont passées ailleurs, Venise est finalement un modèle d'équilibre, de liberté.
Oui, d'ailleurs, le système judiciaire.
C'est le contraire d'être florentin, voyez-vous.
Le système judiciaire est un des plus justes d'Europe.
Bien sûr.
Et vous, dans votre fascination, entre cette fascination pour l'expérience historique, cette réussite commerciale, cette réussite impériale.
Absolument. Oui. Et dans tous les domaines. Hein, le domaine politique est très important aussi. Très important aussi.
Comme modèle institutionnel aussi.
Écoutez, je crois que ça n'a pas été dépassé. Dans Le Cœur Absolu, je fais référence, bien entendu, à cette histoire du doge, alors épouser la mère avec le Bucentaure, vous savez, on montait en grand apparat sur cette grande barque fabuleuse que vous voyez peindre dans des tas de tableaux, et le doge allait au large, me jeter un anneau dans la mer. Il épousait solennellement la mer. Bien entendu, Napoléon trouvait ça épouvantable qu'on épousât sa mère. Il devait avoir des problèmes de ce côté-là, voire Freud. Eh bien, dans mon petit Cœur Absolu, en effet, les personnages, par une sorte de dérision sympathique, refont le pays, refont le voyage et jettent aussi des anneaux dans la mer. Mais ça a une puissance mythologique extrême. Ça.
Le gondolier somnole.
Il lit une bande dessinée.
C'est-à-dire qu'il est un peu ailleurs. Là, le mythe est un peu.
Voyez-vous, mais
un peu lointain. Pour
ça aussi, mais ça n'a pas d'importance. Il peut y avoir des fous qui jettent des anneaux dans la mer et puis en même temps, on peut lire une bande dessinée si on s'intéresse à autre chose.
Dans le mythe de Venise, il y a ces grandes soirées tenues, par ce qui reste d'aristocratie vénitienne.
Oui. Je me suis amusé à appeler ma comtesse, je crois, Bragadine, parce que c'était justement un nom qu'on trouve dans les mémoires de Casanova. Il y a de très, très belles soirées, bien sûr. Mais ça, il y a beaucoup en Italie. L'Italie, hein, encore. Rome aussi, il y a des choses étonnantes à Rome, de ce point de vue. Mais il est évident qu'une soirée un peu musicale dans un coin de palais, avec les fenêtres ouvertes sur le velours de la nuit, ça a quelque chose d'assez étonnant. Étonnant. Enfin, le petit concert que je raconte, là, par exemple, c'est magique, vous comprenez.
Avec une haute société vénitienne qui se sent encore responsable de la ville, responsable du fait qu'elle existe, qu'elle
brille. Il y a aussi des gens qui viennent de partout, parce que c'est une ville très cosmopolite, si on regarde un peu
De plus en plus, maintenant, il y a beaucoup de Français et d'Anglais qui s'y installent.
C'est ça, oui, comme dans la région de Bordeaux, dont je viens. Les gens viennent du monde entier pour être plus près de ce qu'on touche, là, d'essentiel. Dans le Médoc, près de Margaux, vous savez. Il y a des Japonais, il y a des Anglais, il y a des Américains, et tout le monde va être là quand il y a quelque chose. Hein. C'est comme les demoiselles d'Avignon quand elles arrivent à Paris. Tous les photographes se précipitent parce que c'est un événement magique pour un tableau pourtant qui est resté pendant 16 ans complètement méconnu par tout le monde. Donc il ne faut pas avoir peur du temps. Le magnétisme, quand il existe, est tout à fait irréductible.
La lagune, les îles, peu présentes dans vos livres.
Non, c'est vrai, parce que quand je suis à Venise, je bouge plus, vous comprenez, je fais plus le Torcello, j'ai fait ça autrefois, bien sûr.
Il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres îles plus connues, avec des pêcheurs, des quartiers pauvres.
Mais ça
me plaît. Une sorte de mémoire, justement, de la Venise du début du siècle.
Oui, bien sûr, mais ça me plaît, ça c'est un univers îlot, j'aime beaucoup les îles. Je vous dis, je passe mes vacances la plupart du temps à l'île de Ré, qui est une île.
Qui
va cesser de l'être parce que monsieur
Bouy. À cause du pont, faites le sauter, écoutez, faites le sauter.
Il va être un peu fort pour moi, il faudra qu'on s'y mette ensemble, si vous voulez. Donc, j'aime beaucoup les îles, mais là, c'est cet univers îlot interminable, justement, qu'il y a autour de Venise, qui me plaît merveilleusement. On sent, comme si... En Chine, j'ai eu aussi cette impression, souvent, dans des espaces qui se reproduisent comme ça, mais avec des très, très cultivés, très raffinés, hein, avec des grands espaces intermédiaires vides.
Vous avez une saison à Venise particulière ?
Au printemps, automne, comme tout le monde, il faut éviter l'été, je crois, oui, parce que ça, c'est
un. Non, je ne parlais pas par rapport au tourisme, disons par rapport à la lumière, par rapport éventuellement à la brume, aux couleurs des arbres.
Je crois que le début octobre est absolument saisissant, parce que tout est en train de changer, le temps se durcit, on voit arriver les tempêtes, les mouettes sont dans un état d'excitabilité particulière, les goélands sont là aussi, ça vient se poser sur les toits, le rouge est plus rouge et profond, les couleurs, vous savez, sont quelque chose.
Oui, hein. Surtout vous êtes sur un campo, dont nous tairons le nom,
oui.
Le vrai, un campo avec quelques arbres.
Mmh, oui.
C'est une ville avec beaucoup d'arbres, Venise, on l'oublie souvent.
Mais oui, bien sûr, il y a des platanes, il y a tout ce qu'il faut, il y a des petits jardins intérieurs qui sont pas mal non plus, des fleurs partout. Oui. Oui. Puis les églises.
Des îles dans l'île.
Oui, oui. Et les églises comme des îles.
Oui. Philippe Solers, donc Venise très présente dans Le cœur absolu, publié chez Gallimard, Venise très présente dans Portrait du joueur, Venise présente, très présente, enfin présente également dans Femme, qui est un de vos grands succès, je crois, un livre auquel vous tenez beaucoup. Moi, un de mes préférés, enfin mon préféré, je crois, Le cœur absolu, le dernier.
Moi aussi, préférer le dernier.
Oui, oui. Alors, parce que je crois que je trouve qu'il y a un système ésotérique subtil dans les différents plans, je suis même quasi sûr que la presse et la critique n'a pas vu l'intelligence qu'il peut y avoir entre l'île de Ré, qui n'est pas citée comme île de Ré, mais enfin, on peut le deviner, entre Venise, entre Paris, entre le Japon présent à travers une femme et la Divine Comédie qui est là, justement, qui est la clé qui montre justement que tout
merci,
est codé.
Merci.
Et c'est un livre que je trouve un de vos meilleurs, Philippe Solers.
Merci.
Le cœur absolu chez Gallimard. Ainsi se termine Agora, prise de son Pierre Laya. Jean Fèvre, réalisation André Mathieu. Mon invité était Philippe Solers.
Cette émission a été diffusée le 16 février 1988 sur France Culture.